Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. En Afrique du Sud, la ministre de la Défense a dit hier avoir soumis une requête pour le déploiement d'environ 25 000 soldats au sixième jour des violences qui ont fait au moins 72 morts. On craint des pénuries de vivres et de carburant. En raison de ces violences, les vaccinations ont été suspendues dans le pays. Nous y reviendrons avec Rosine Munezero. Le Rwanda imposera des restrictions ou un confinement, lockdown, comme ils disent à Kigali, la capitale, et dans 8 autres districts à partir de samedi pour freiner la recrudescence des cas et des décès dus au coronavirus. Le bureau du Premier ministre Edouard Ngirente a dit dans un communiqué mercredi soir que les restrictions dureront jusqu'au 26 juillet. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé hier être en rupture de stock de vaccins AstraZeneca, tandis que les cas de contamination et la mortalité liée au COVID-19 ont commencé à baisser. Marius Muhunga nous en parlera. Pour rester en RDC, la justice a renversé hier la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre Augustin Matata, selon son avocat Maître Laurent Onyemba. Monsieur Matata est soupçonné de détournement de fonds publics en rapport avec le dossier des victimes de l'azérianisation. Pour revenir au coronavirus, le Sénégal a enregistré hier un nombre record de contaminations au COVID-19, une progression fulgurante qui requiert une vigilance accrue selon le président Macky Sall. Il n'a pas annoncé de nouvelles restrictions sanitaires à quelques jours des grandes célébrations de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, mais M. Sall a insisté sur l'impératif de respecter les mesures barrières. Selon le ministère de la Santé, sur 2854 tests réalisés, 733 étaient revenus positifs, soit un taux de positivité de plus de 25%. Cette situation s'inscrit dans un rebond général en Afrique qui vient de vivre la semaine la plus désastreuse de l'histoire des pandémies sur le continent, selon l'OMS, qui prévoit que le pire reste à venir. L'ONU a sonné l'alarme jeudi sur un risque de catastrophe absolue si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de COVID-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. Au Burkina Faso, plus de 237 000 personnes ont dû fuir leur localité depuis le début de l'année dans ce pays confronté à des attaques djihadistes meurtrières, ce qui porte le nombre total de déplacés à plus de 1,3 million selon le gouvernement burkinabé. Dans un rapport publié ce jeudi, Amnesty International a dénoncé le traitement atroce subi par des migrants interceptés en Méditerranée et envoyés de force dans des centres de détention en Libye avec, je cite, l'aide honteuse des Européens. Parmi les actes déplorés par l'ONG, torture, violence sexuelle, travail forcé et autres formes d'exploitation en toute impunité. Le président algérien Tebboune, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la libération de 101 détenus, dont 71 jeunes, incarcérés pour avoir appelé ou pris part à des manifestations dans le cadre du mouvement de contestation du Irak, selon un communiqué de la présidence mercredi soir. Les États-Unis ont mis en garde l'Égypte contre le fait de prendre pour cible des militants des droits humains et indiquait que cela serait pris en compte lors de tractations en vue de vente d'armes entre les deux pays alliés après l'annonce de son inculpation par un éminent activiste, Hossam Bagat, directeur exécutif de l'initiative égyptienne pour les droits personnels. Le gouvernement cubain a annoncé de premières mesures pour apaiser la population 3 jours après des manifestations historiques en autorisant temporairement les habitants à ramener de voyage des aliments, médicaments et produits d'hygiène sans payer de taxes et sans limite de valeur. L'entreprise française Karma a annoncé jeudi la première implantation humaine de son cœur artificiel total aux États-Unis dans le cadre d'une étude clinique. L'implantation a été réalisée à Duke University Hospital à Durham, en Caroline du Nord.
We'll be right back.
la suite de nos informations, l'Afrique du Sud, pays durement frappé par une troisième vague de COVID-19, a suspendu les vaccinations à cause des pillages et violences qui ont fait au moins 72 morts. Le point avec Rosine Munezero.
Nous avons pour l'instant dû suspendre les vaccinations dans le KwaZulu-Natal, touché par des pillages à grande échelle, a déclaré le groupe hospitalier privé Netcare. Le problème est lié à des difficultés pour les fournisseurs d'acheminer les stocks de médicaments vers les hôpitaux. Les transports reliant la capitale économique Johannesburg et l'est du pays étant coupés. L'ONG Médecins sans frontières présente dans le KwaZulu-Natal a également indiqué dans un communiqué avoir suspendu certaines activités. Le pays le plus touché sur le continent compte plus de 2,2 millions de cas et 65 000 sans décès, dont 633 rien que les dernières 24 heures. L'Afrique du Sud est secouée depuis plusieurs jours par des vols et des destructions touchant principalement ces deux régions. Initialement provoquées par l'emprisonnement jeudi de l'ex-président Jacob Zuma, les violences se sont intensifiées ces derniers jours sur fond de crise économique et de chômage.
En République démocratique du Congo, les autorités ont indiqué hier que l'État est en rupture de stock de vaccins AstraZeneca, tandis que les cas de contamination et la mortalité liées au COVID-19 ont commencé à baisser. Précision de Marius Muhunga.
Il n'y a plus de doses d'AstraZeneca en RDC, où les trois différents lots reçus le 2 mars sont périmés, selon Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Il déclare être en discussion avec la MONUSCO pour avoir 8000 doses très rapidement qui pourront aider à continuer la campagne de vaccination. Depuis le début de la campagne le 19 avril, avec le vaccin AstraZeneca, 75 789 personnes ont été vaccinées. Par ailleurs, le ministre a indiqué que dans le cadre de l'initiative COVAX, la RDC attend 50 000 doses d'AstraZeneca entre fin juillet et mi-août et 2500 doses du vaccin Pfizer dans les 4 semaines. Le pays a également négocié avec la Chine pour avoir 400 000 doses du vaccin Sinovac, a dit le ministre. Le pays va aussi bénéficier de 26 millions de doses par l'initiative de l'Union africaine. À la mi-mai, les autorités ont annoncé l'arrivée d'une troisième vague avant de prendre une batterie de mesures pour contenir la propagation de la pandémie. La RDC enregistre 44 909 cas, dont 984 décès depuis le début de la pandémie.
Au Mali, l'abbé Léon Douillon, retenu en otage depuis le 21 juin, a été libéré mardi. C'était le dernier membre d'un groupe de 5 catholiques enlevés par des hommes armés dans le centre du pays, Mohamed Houmfa.
Notre frère l'abbé Léon est libre, il a retrouvé sain et sauf sa famille, a déclaré l'abbé Kizito Togo, un responsable de la paroisse de Mopti dans le centre du Mali. L'abbé Douillon a été libéré mardi, il a rejoint son village, a confirmé le colonel-major Abbas Dembélé, gouverneur de la région de Mopti. L'abbé Léon Douillon, curé de Ségué, faisait partie d'un groupe de 5 catholiques kidnappés le 21 juin après leur départ de Ségué pour assister à l'enterrement d'un autre abbé. 4 d'entre eux ont été libérés 2 jours plus tard, Timothée Somboro, chef du village de Ségué, Pascal Somboro, adjoint au maire, et 2 autres membres de la communauté catholique, Emmanuel Somboro et Boutier Toloufoudier. Seul l'abbé Léon Douillon était resté détenu. Les enlèvements attribués aux djihadistes sont communs dans le secteur et sont attribués à la violence multiforme qui frappe le Mali.
Le monopole de Djibouti Télécom, c'est fini. Le gouvernement djiboutien a entériné l'ouverture du capital de son opérateur historique. C'est la disparition de l'un des derniers monopoles télécom d'Afrique. Le taux de pénétration du mobile n'est qu'à 43,5% et de l'Internet à 55,7%. Dans le pays, selon les données du Digital Report 2021 de Hootsuite et We Are Social. Et le gouvernement veut développer ce secteur. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé hier un accord de 200 millions de dollars, soit près de 111 milliards de francs CFA, pour promouvoir l'emploi dans le pays. La BM dit vouloir accompagner ainsi le programme gouvernemental Vision 2030 qui ambitionne de doubler le PIB ivoirien à terme. Pour maximiser les effets de cette croissance, a précisé l'institution de Bretton Woods, la Côte d'Ivoire devra créer davantage d'emplois de meilleure qualité et plus productifs, notamment dans le secteur de l'agriculture et dans l'agro-industrie au profit des femmes et des jeunes. 14 chefs d'État africains sont attendus aujourd'hui à Abidjan pour la réunion sur la 20e reconstitution des ressources de l'IDA, l'Association internationale de développement. Cette reconstitution vise à soutenir une relance forte suite à la crise engendrée par le Covid-19 et à aider le continent africain à poursuivre sa transformation économique.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Athlétisme pour commencer. Timothy Chiriot, initialement non qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, figure finalement dans la liste des sélectionnés du Kenya annoncée hier. Le champion du monde de 1500 mètres remplace le jeune Kamara Etiang, deuxième des sélections, mais écarté pour ne pas s'être conformé aux mesures antidopage qui exigent 3 contrôles hors compétition au cours des 10 derniers mois. On fait savoir les responsables de l'athlétisme kenyan. Chiriot n'a pris que la 4e place lors des sélections kenyanes en juin. Mais ce mois-ci, le coureur de demi-fond de 25 ans a réalisé de très bons chronos en Ligue de Diamants lors de ses victoires à Stockholm et Monaco, 3 minutes 28 secondes, meilleure performance mondiale de l'année. Les marcheurs Samuel Gatimba et Emile Ngui et le coureur de 400 mètres haies, Mwatalel Mpoké, ont aussi été écartés de la liste. Au Cameroun, Martin Camus, membre, directeur du Radio Sport Info, et un de ses proches comparaîtront à partir du 22 juillet devant un tribunal de Douala pour proxénétisme. L'annonce a été faite par un avocat de la plaignante et un membre du parquet. En juillet, des photos et vidéos d'une jeune femme de 24 ans, prénommée Malika, entretenant des rapports sexuels dans le bureau de Martin Camus Membe, célèbre journaliste, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Messieurs Membe et Eteki sont poursuivis pour proxénétisme, publication obscène, diffamation et cybercriminalité. Transfert, le Paris Saint-Germain a officialisé le recrutement jusqu'en 2026 du gardien Gianluigi Donnarumma, arrivé libre à 22 ans en provenance de l'AC Milan, le portier italien nommé meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté avec son pays sera en concurrence avec l'expérimenté Keylor Navas, 34 ans. Le PSG rallonge ainsi sa liste de nouvelles recrues après les arrivées du défenseur espagnol Sergio Ramos et du milieu néerlandais Jorginho Wijnaldum en fin de contrat au Real Madrid et à Liverpool respectivement. L'international marocain Achraf Hakimi a aussi quitté l'Inter Milan pour le PSG. En Espagne, le FC Barcelone et Lionel Messi seraient parvenus à un accord pour une prolongation du contrat de 5 ans selon la presse espagnole. Le capitaine du Barça, récent vainqueur de la Copa América avec son pays l'Argentine, signera un contrat de 5 ans avec une clause de rachat de 600 millions d'euros, affirme le quotidien sportif catalan L'Esportiu. Le salaire du joueur sera abaissé de 50% précise de son côté Marca. Messi touchera 20 millions d'euros la saison prochaine, croit également savoir L'Esportiu. Lionel Messi, 34 ans, est arrivé en fin de contrat en juin.
Merci, Yacouba. Passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la course pour la désignation des dirigeants de la centrale électorale, la Commission électorale nationale indépendante, est lancée. Aujourd'hui, les prétendants doivent déposer leur candidature auprès des confessions religieuses pendant que les évêques catholiques sont en deuil après le décès du cardinal Laurent Mossango. Les noms des dirigeants de la CENI doivent être connus samedi, jour où la dépouille du cardinal sera rapatriée de Paris à Kinshasa. Edith Sango a joint à Kinshasa le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Liboula.
Effectivement, le calendrier a été rendu public hier, consiste effectivement des activités qui vont se dérouler dans un timing bien précis, en commençant à partir du mercredi 14 jusqu'au 17 août. Donc, les animateurs du CENI seront tous connus. Donc, c'est un peu ça.
Mais le calendrier est sorti alors que la CENCO qui joue un rôle important, c'est-à-dire les évêques catholiques sont en deuil. Il y a le dépouille mortel du cardinal Mossango qui revient au pays et samedi. Est-ce que vous pensez que les catholiques pourront être dans ces processus? Est-ce que ça ne va pas les empêcher d'être là?
Oui, c'est un élément important que vous venez d'évoquer là. De toute façon, ils seront saisis par les bureaux Et je vous dis que celui qui s'occupait là, c'est fille aussi un ancien président de l'Assemblée nationale. Et donc l'Assemblée nationale va aussi s'occuper des obsèques officielles. Et du côté religieux, sera occupé par l'Église catholique mère. Quand cela concerne, je peux vous dire que le bureau saisira officiellement les confessions religieuses, la société civile et les composantes politiques pour que ce calendrier soit respecté.
Cela fera qu'il ne soit pas là. Vous ne pensez pas? Il y a risque que la Synco ne soit pas là.
Non. Ça veut dire que la Synco sera saisie à travers ses représentants. Ça veut dire que nous avons des perspectives, nous avons mené des négociations, des échanges. Nous savons comment nous allons procéder. Donc, ne vous en faites pas pour les obsèques, mais il y a une cellule qui travaille, ils vont se réunir, ils vont échanger pour pouvoir nous déposer les candidats et les dossiers conformément au calendrier qui a été publié par l'Assemblée nationale.
À ce point, est-ce que les confessions religieuses se sont déjà entendues? Parce qu'on a vu la fois passée, après la désignation des Ronsa acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu des morts.
Ils vont s'entendre parce que la procédure n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ils ont échangé là-dessus pendant une longue période. Ils attendent que l'Assemblée nationale présente un calendrier. Dès lors que ce calendrier a été rendu public, ils vont pas traîner pour pouvoir nous présenter le nom des délégués que la loi électorale leur commet.
Joint à Kinshasa, Joseph Lembi Liboula, le rapporteur de l'Assemblée nationale.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Afghanistan, depuis que les forces étrangères ont entamé début mai leur départ définitif du pays, prévu pour s'achever d'ici fin août, les talibans ont pris le contrôle de vastes territoires ruraux dans le pays et de postes frontières clés avec l'Iran, le Turkménistan et le Tadjikistan. Et dans certaines provinces, de nouvelles règles sont déjà en vigueur. La barbe est obligatoire pour les hommes et les femmes ont été placés sous tutelle. Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de recherche et spécialiste de l'Afghanistan à l'IFRI, Marc Ecker, pour lui demander s'il était surpris par la vitesse de l'avancée des talibans dans le pays.
Oui, la rapidité de la progression des talibans est surprenante. Ils affirment maintenant contrôler 85% du territoire. C'est un chiffre qui est discuté, mais enfin qui montre quand même une progression extrêmement rapide sur les trois derniers mois. Ils ont encerclé les différentes capitales régionales, ils contrôlent la plupart des points de passage avec les pays voisins, dont dernièrement un point de passage avec le Pakistan. Et donc on voit vraiment qu'ils sont en train de placer leurs pions pour pouvoir éventuellement prendre ultérieurement ces capitales régionales. Et on voit que le pouvoir afghan en tant que tel tend à se rétrécir et à se cantonner de plus en plus autour de Kaboul, de la capitale. Donc ça, c'est surprenant. Ce qui est aussi surprenant, si on prend un peu plus de recul, c'est la rapidité du retrait américain. Ouais, très franchement, les alliés ont été surpris des décisions de Joe Biden qui a hâté le retrait tout en avançant la date au 4 juillet. Et effectivement, c'est un retrait qui a été très très rapide et on peut voir en parallèle la progression des talibans et je crois que comparer ces deux courbes, la courbe du retrait d'une part, la courbe de la progression des talibans de l'autre, n'est pas anodin et il y a sans doute une corrélation à faire entre ces deux événements.
Quand les Américains sont intervenus il y a plus de 20 ans, leurs objectifs étaient très précis. Est-ce que pour vous, ils ont été remplis?
Les États-Unis, après le 11 septembre 2001, avaient des objectifs qui étaient à la fois larges et en même temps qui n'étaient pas si précis que cela. George W. Bush avait dit à l'époque que la guerre contre le terrorisme commençait avec Al-Qaïda, mais qu'elle ne s'arrêterait que quand les groupes terroristes de portée internationale auraient été vaincus. Or, la notion de groupe terroriste de portée internationale est assez floue. Et une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est précisément est-ce que les talibans peuvent être considérés comme un groupe uniquement local ou est-ce qu'ils ont encore une portée internationale ou en tout cas est-ce qu'ils ont encore des liens avec des groupes de portée internationale, et là on pense bien évidemment à Al-Qaïda. Et en fait, quand on regarde les informations qui sortent depuis plusieurs mois maintenant, on voit que des liens existent encore. Par exemple, en 2019, quelques mois seulement avant l'accord de Doha de février 2020, par lequel les talibans s'étaient engagés à ne plus avoir de lien avec des groupes de portée internationale, il y a eu un raid américano-afghan à Moussa Kala. Dans ce raid, sur une cache des talibans, était hébergé l'émir d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien. Et ces liens sont vraisemblablement encore présents. Toute la question, c'est de savoir si les talibans vont transformer leur territoire en sanctuaire pour le terrorisme international, quitte à en assumer les conséquences, comme ça avait pu l'être après le 11 septembre 2001. Donc, avec du recul, ce qui est très surprenant, c'est que, dans le fond, les Américains et leurs alliés avaient réagi au 11 septembre par l'opération Enduring Freedom et par la destruction du sanctuaire d'Al-Qaïda en Afghanistan, par le renversement du régime des talibans. Et à l'époque, personne ne pensait que cette guerre allait durer aussi longtemps, et personne ne pensait que les talibans seraient 20 ans plus tard aux portes du pouvoir.
Marc Eckler, co-auteur du livre « La guerre de 20 ans » et directeur de recherche à l'Institut français des relations internationales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, depuis que les forces étrangères ont entamé début mai leur départ définitif du pays, prévu pour s'achever d'ici fin août, les talibans ont pris le contrôle de vastes territoires ruraux dans le pays et de postes frontières clés avec l'Iran, le Turkménistan et le Tadjikistan. Et dans certaines provinces, de nouvelles règles sont déjà en vigueur. La barbe est obligatoire pour les hommes et les femmes ont été placés sous tutelle. Clermont-Régibourg a joint le directeur de recherche et spécialiste de l'Afghanistan à l'IFRI, Marc Ecker, pour lui demander s'il était surpris par la vitesse de l'avancée des talibans dans le pays.
Oui, la rapidité de la progression des talibans est surprenante. Ils affirment maintenant contrôler 85% du territoire. C'est un chiffre qui est discuté, mais enfin qui montre quand même une progression extrêmement rapide sur les trois derniers mois. Ils ont encerclé les différentes capitales régionales, ils contrôlent la plupart des points de passage avec les pays voisins, dont dernièrement un point de passage avec le Pakistan. Et donc on voit vraiment qu'ils sont en train de placer leurs pions pour pouvoir éventuellement prendre ultérieurement ces capitales régionales. Et on voit que le pouvoir afghan en tant que tel tend à se rétrécir et à se cantonner de plus en plus autour de Kaboul, de la capitale. Donc ça, c'est surprenant. Ce qui est aussi surprenant, si on prend un peu plus de recul, c'est la rapidité du retrait américain. Ouais, très franchement, les alliés ont été surpris des décisions de Joe Biden, qui a hâté le retrait en avançant la date au 4 juillet. Et effectivement, c'est un retrait qui a été très très rapide, et on peut voir en parallèle la progression des talibans. Et je crois que comparer ces deux courbes, la courbe du retrait d'une part, la courbe de la progression des talibans de l'autre, n'est pas anodin, et il y a sans doute une corrélation à faire entre ces deux événements.
Quand les Américains sont intervenus il y a plus de 20 ans, leurs objectifs étaient très précis. Est-ce que pour vous, ils ont été remplis ?
Les États-Unis, après le 11 septembre 2001, avaient des objectifs qui étaient à la fois larges et en même temps qui n'étaient pas si précis que cela. George W. Bush avait dit à l'époque que la guerre contre le terrorisme commençait avec Al-Qaïda, mais qu'elle ne s'arrêterait que quand les groupes terroristes de portée internationale auraient été vaincus. Or, la notion de groupe terroriste de portée internationale est assez floue, et une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est précisément, est-ce que les talibans peuvent être considérés comme un groupe uniquement local, ou est-ce qu'ils ont encore une portée internationale, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont encore des liens avec des groupes de portée internationale? Et là, on pense bien évidemment à Al-Qaïda. Et en fait, quand on regarde les informations qui sortent depuis plusieurs mois maintenant, on voit que des liens existent encore. Par exemple, en 2019, quelques mois seulement avant l'accord de Doha de février 2020, par lequel les talibans s'étaient engagés à ne plus avoir de lien avec des groupes de portée internationale, il y a eu un raid américano-afghan à Moussa Kala. Dans ce raid, sur une cache des talibans, était hébergé l'émir d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien. Et ces liens sont vraisemblablement encore présents. Toute la question, c'est de savoir si les talibans vont transformer leur territoire en sanctuaire pour le terrorisme international, quitte à en assumer les conséquences, comme ça avait pu l'être après le 11 septembre 2001. Donc, avec du recul, ce qui est très surprenant, c'est que dans le fond, les Américains et leurs alliés avaient réagi au 11 septembre par l'opération Enduring Freedom et par la destruction du sanctuaire d'Al-Qaïda en Afghanistan, par le renversement du régime des talibans. Et à l'époque, personne ne pensait que cette guerre allait durer aussi longtemps et personne ne pensait que les talibans seraient 20 ans plus tard aux portes du pouvoir.
Marc Eckler, co-auteur du livre « La guerre de 20 ans » et directeur de recherche à l'Institut français des relations internationales.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la cybercriminalité et les attaques au rançongiciel. Des hackers ont récemment paralysé plus de 1500 entreprises à travers le monde en attaquant la société informatique américaine Kaseya, réclamant 70 millions de dollars. Les États-Unis sont de plus en plus victimes de ce type d'attaques, mais l'Afrique, jusque-là touchée dans une moindre mesure, n'est pas épargnée non plus. Les experts recommandent au gouvernement et aux entreprises d'investir davantage dans la sécurisation des données. Quel risque est offert face à ces attaques dans un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous ce jeudi à 19h universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les vaccins anti-Covid ont jusqu'à présent reçu le feu vert de l'Organisation mondiale de la santé, mais avec l'évolution des variants, des questions se posent sur le fonctionnement de chaque vaccin, suscitant une certaine confusion. Mais pour éviter l'hospitalisation, voire la mort, aucune dose de vaccin n'est à négliger. Reportage de Steve Baragona de VOA, récit d'Abdourahmane Dia.
Avec la flambée du variant Delta, les études montrent que même certaines personnes vaccinées peuvent être infectées. Mais ces infections sont pour la plupart bénignes. Tous les vaccins gardent leur efficacité. Bill Paoli de Washington University.
Ils sont très efficaces pour ce que nous voulons qu'ils fassent, c'est-à-dire protéger les gens contre les maladies graves et la mort.
Une vague d'infection en Israël a récemment fait craindre un faible taux d'efficacité face à Delta, mais Paoli indique que les vaccins empêchent les maladies graves, comme c'est le cas dans son état d'origine, le Missouri.
Ils ont aussi des cas, comme en Israël, chez les personnes vaccinées, mais aucune d'entre elles n'est hospitalisée. Toutes leurs hospitalisations et malheureusement tous leurs décès concernent des personnes non vaccinées.
Certains vaccins sont meilleurs que d'autres pour déclencher le système immunitaire. Les vaccins à ARN de Moderna et Pfizer semblent généralement produire le plus d'anticorps, suivi des vaccins à vecteurs viraux Johnson & Johnson, AstraZeneca et le vaccin russe Sputnik. Les vaccins à virus inactivé des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm se situent au bas de l'échelle. Tous produisent suffisamment d'anticorps pour combattre la souche d'origine. Mais les niveaux d'anticorps commencent à avoir plus d'importance contre les variants, selon les experts. Peter Oppenschack, professeur de médecine à l'Imperial College de Londres.
Maybe with a slightly less...
Peut-être qu'avec des vaccins légèrement moins puissants qui n'induisent pas une réponse immunitaire aussi forte, le variant Delta commence à percer. Ils ont toujours une certaine protection contre les cas les plus graves, mais c'est clairement une sorte d'échelle maintenant.
Et les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J et Sputnik semblent tous être meilleurs que Sinopharm et Sinovac pour activer la deuxième ligne de défense du corps appelée cellule T. Deborah Fuller est spécialiste des vaccins à l'Université de Washington.
Les vaccins capables d'induire une réponse immunitaire de secours, comme une réponse des lymphocytes T, vont offrir une meilleure protection contre divers variants, des variants viraux, qu'un vaccin inactivé qui n'induit que des anticorps.
Selon Deborah Fuller, les vaccins Sinopharm et Sinovac ressemblent beaucoup aux vaccins annuels contre la grippe. Pas parfait, mais mieux que rien. Elle estime que tous les vaccins aident à ralentir la propagation du virus et de nouveaux variants.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.